Radio Okapi. Le journal présenté par Patience Ngaloula.
Au sommaire de cette édition d'information, les gouvernements souminois investis à 2h du matin de ce mercredi 12 juin par le Parlement. Après 8 heures de débat général et la réplique de la première ministre, 397 députés nationaux ont adopté son programme quinquennal sur 405 présents à cette plénière. Désengagement de la MONUSCO des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les gouvernements du pays autorisent la reprise des travaux de l'équipe provinciale intégrée des transitions. Réunie en bilatéral Nations Unies gouvernement provincial, il était question de voir ensemble les modalités réalistes des reprises des activités en rapport avec les transferts des tâches de la MONUSCO au gouvernement congolais. L'invité de ce matin est Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Il revient sur les programmes d'action du gouvernement souminois présentés ce mardi à l'Assemblée nationale. Bonjour. Investiture ce mercredi à 2h du matin du gouvernement souminois. Les députés nationaux ont adopté les programmes du gouvernement après 8h de débat général et la réplique de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Sur 405 députés nationaux qui composent l'Assemblée nationale, 397 ont voté oui et 8 abstentions. Dans sa présentation de l'économie du programme d'action quinquennal du gouvernement, la première ministre s'est dit consciente des défis majeurs qui attendent son équipe dans différents secteurs de la vie, notamment les défis sécuritaires et socio-économiques, grâce à Mzati.
Ces six principaux engagements du gouvernement souminois sont, entre autres, la création de plus d'emplois afin d'absorber des dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau des sous-emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux d'échange, afin de leur garantir une meilleure qualité de vie. La pacification du pays, la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive, l'accès aux services sociaux de base comme les soins de santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, ainsi que le renforcement de l'efficacité des services publics. Selon la première ministre, ces piliers permettront d'accélérer le développement économique et social de la RDC. Ces piliers se déclinent en 52 axes stratégiques qui concernent les différents domaines d'intervention. À leur tour, ces axes se déclinent en 326 actions, projets et réformes qui seront respectivement menés par les ministres sectoriels. Judith Suminwa ajoute que l'action gouvernementale continuera de mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ses progrès.
Et puis, les programmes d'action du gouvernement présentés par la première ministre est chiffré à 92 milliards de dollars et s'étend sur les 5 prochaines années et vise à matérialiser la vision politique du président de la République intitulée « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». D'après la première ministre, ces programmes sont structurés en 6 piliers et 52 axes stratégiques. Ils visent à réhabiliter les Congolais dans leur dignité, promouvoir les dialogues pour la consolidation, j'y arrive, de la paix, renforcer la société technologique et à allouer les ressources avec efficacité et équité. Comment seront donc répartis les 92 milliards de dollars dans la mise en œuvre des 6 piliers du programme du gouvernement? Judith Suminwa, dans cet extrait proposé par Michel Kifindangoy.
Le programme d'action du gouvernement que j'ai ainsi l'honneur de présenter aujourd'hui devant votre auguste assemblée, ce chiffre à 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains pour les 5 prochaines années et devra être totalement financé par des ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. La répartition du coût du programme suivant ces différents piliers se présente suite. 30% est alloué au pilier 1 qui porte sur la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages. 25% sont alloués au pilier 3 qui porte sur l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. 20% sont alloués au pilier 2, qui porte sur la protection du territoire national et la sécurisation des populations et des biens. 15% sont attribués au pilier 4, qui a pour action de garantir l'accès aux services sociaux de base. 5% sont alloués au pilier 5 qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. 5% enfin sont alloués au pilier 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale salue les pragmatismes du programme d'action du gouvernement et assure l'accompagnement des députés nationaux à 100%. Vital Kamerhe invite toutefois la première ministre à veiller dans la mise en œuvre de ces programmes, que les coûts sont réalistes et les actions à réaliser répondent réellement aux besoins de la population congolaise. Il insiste notamment sur la relance de l'agriculture comme priorité pour stabiliser la monnaie congolaise, éliminer la pauvreté et relancer l'économie du pays. On écoute le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au micro de Michel Kifindangoy.
Il n'est pas possible, madame, qu'on assigne à chaque province, par exemple, 40 000 hectares. Dire, bon, voilà, les grands Kassai, les grands Katanga, faites-nous 200 000 hectares de maïs. Est-ce que c'est impossible? Quand cet argent quitte la banque centrale et réellement orienté vers les intrants, les équipements pour produire, il y aura de l'inflation quand ça va sortir. Mais quand vous allez récolter, on va résorber l'inflation et notre monnaie va retrouver sa valeur effectivement. C'est le secret du Brésil, madame. Faisons-le chez nous. Mais pour cela, il faut donner des exonérations. Les matériels agricoles, les intrants agricoles, au lieu de donner des exonérations aux amis et aux voitures de luxe. Donc tout cela est faisable. Moi, je pense que en ce qui concerne l'Assemblée nationale, la collaboration, elle est acquise.
Des engagements de la MONUSCO, des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, les gouvernements de la République démocratique du Congo autorisent la reprise des travaux de l'équipe provinciale intégrée des transitions. L'information a été partagée lors d'une réunion d'échange ce mardi 11 juin à Goma entre une délégation gouvernementale et les représentants de la mission onusienne. Chris Mukand.
La réunion a mis ensemble le général-major Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, qui accompagnait l'équipe technique et stratégique des experts de la province. Et du côté MONUSCO, le chef de bureau de la MONUSCO Goma, Omar Aboud, et les représentants des différentes sections de la mission onusienne. Les chefs de bureau de la MONUSCO, Bounia et Beni, sont intervenus par vidéoconférence. Les deux équipes Nations Unies, gouvernement provincial, devaient voir ensemble les modalités réalistes de reprise des activités en rapport avec le transfert des tâches de la MONUSCO au gouvernement congolais, la gestion de la transition au regard du processus de désengagement de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Rappelons que le travail de l'équipe provinciale intégrée de transition avait été suspendu en juin 2023. Avec l'autorisation du gouvernement congolais, cette équipe devrait s'atteler à mettre à jour la feuille de route relative à ce transfert de tâches. Il sera question de voir parmi les agences laquelle pourrait soutenir le gouvernement dans les tâches cédées par la mission de paix, des tâches qui concourent à la sécurisation des populations civiles et au renforcement de l'autorité de l'État. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
À Ituri, les centres de rattrapage scolaire des enfants affectés par les conflits armés en Ituri a été remis ce mardi au responsable de la division des affaires sociales à Bounia. Ces centres ont été construits grâce aux contributions volontaires du personnel de la MONUSCO et des agents du système des Nations Unies exerçant en Ituri avec l'appui des autorités provinciales. Selon l'initiateur de ces projets, l'objectif de cette action est de faciliter l'accès à l'éducation à des milliers d'enfants après l'incendie du bâtiment fait un matériau provisoire qui accueillait ces enfants vulnérables. Reportage Ezekiel Mousalia.
Les enfants ont exprimé le désespoir qu'ils avaient ressenti après avoir assisté impuissants à la perte de leur salle de classe dans un incendie. Les responsables du centre de rattrapage scolaire de la division des affaires sociales en charge de la gestion ont aussitôt multiplié des plaidoyers auprès des divers partenaires. Les personnels de la MONUSCO et des agences des Nations Unies exerçant en Ituri, de même que les autorités provinciales, ont adhéré à une campagne de mobilisation des fonds qui ont permis de construire ces bâtiments. Ce jeune apprenant qui avait déjà repris la recherche des mitrailles dans la rue exprime sa gratitude.
Nous disons merci pour cette salle de classe. Nous étions en train d'errer dans la ville à la recherche de mitrailles.
La coordonnatrice de ce projet indique que des défis restent encore énormes. Il s'agit par exemple d'équiper la salle de classe en bancs pour donner à ces enfants vulnérables un accès à l'éducation pour un meilleur avenir. Liliane Nyacha.
Le travail n'est pas fini parce qu'il faut qu'il y ait des tables, il faut qu'il y ait des chaises, il faut qu'il y ait du matériel. matériel didactique. Il faut encore soutenir ce projet.
L'UNICEF promet de continuer à soutenir les 200 enfants qui bénéficient chaque jour des enseignements dans ces centres de rattrapage scolaire. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme organisent depuis ce mardi 11 juin à Kinshasa un atelier de 2 jours d'échange d'expériences entre les femmes défenseurs des droits de l'homme. L'atelier réunit les BCNUDH, la Synergie congolaise de femmes défenseurs des droits de l'homme et les coalitions de femmes défenseurs des droits de l'homme de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Un des objectifs poursuivis étant de renforcer leurs capacités dans la promotion et la défense des droits humains. Madame Desi Foura, présidente nationale de l'ONGDH Femmes solidaires pour la paix et le développement et coordonnatrice de la Synergie des femmes défenseurs des droits de l'homme, explique les objectifs de cet atelier et les résultats attendus. Elle est au micro de Jeff Ngoy.
Nous participons pour effectivement échanger les expériences entre les femmes défenseurs de droits de l'homme de Kinshasa et les autres coalitions des provinces, dans le sens où vous savez que les premières victimes d'ailleurs sont des femmes quand il y a des violations graves des droits de l'homme sur les plans national et même sur les plans international. Voilà pourquoi notre partenaire le BCNIDH a voulu que nous puissions échanger avec les autres coalitions qui proviennent de l'Est. Pratiquement, c'est pour que les femmes défenseuses des droits de l'homme soient aussi outillées par les expériences d'autres coalitions, mais aussi renforcer nos capacités. En tant que femmes défenseuses des droits de l'homme, ici on nous a parlé de la mission du BCNIDH, on nous a parlé de sa représentativité au niveau des provinces et toutes les activités que le BCNIDH a menées.
Au Nord Kivu, les collectifs des transporteurs routiers du territoire de Masisi pour le développement annoncent la suspension de ses activités pour 2 semaines à dater de ce mardi. La décision vise à protester contre la hausse injustifiée des taxes dans un contexte sécuritaire déjà précaire. Dans une lettre adressée au gouverneur du Nord Kivu, dont copie aux médias, les transporteurs citent notamment les cas du péage sur l'axe Sake Mweso-Pinga et Mweso-Kanyabayonga qui a vu son prix passer de 50 à 120 dollars pour un engin de 20 tonnes. Monsieur Kanan Biwewe Gervais est le président de cette structure. Il en parle ici dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
Comme transporteur, nous décidons de garder nos véhicules dans nos enclos pendant 2 semaines en attendant de voir si réellement il y aura une réaction du côté de l'autorité provinciale. L'histoire des péages et routes. L'actuel gouverneur a remis l'attribution à une maison qu'on appelle Taïga. Il a multiplié la taxe par 3 alors qu'il n'y a aucun cantonnier, aucun entretien qui s'est fait sur cette route. Donc, les rebelles des M23 qui contrôlent. Et là, c'est catastrophique. Arrivé là-bas, les petits camions qui transportent 6 tonnes, ils payent là-bas 320 dollars. Un camion de 15 tonnes, 450 dollars. Un camion de 20 tonnes, 650 dollars. Des tracasseries impossibles que nous sommes allés exposer auprès toujours de l'autorité provinciale. C'est pas possible, une province qui passe plus de 3 ans en guerre. Et pendant que nous sommes en guerre, c'est maintenant l'opportunité pour les autorités provinciales ici de multiplier leurs taxes.
En suspendant leurs activités, les transporteurs espèrent attirer l'attention du gouverneur sur leurs revendications et obtenir un dialogue constructif. Autre nouvelle, le secrétaire général au ministère de la Santé, Dr Yuma Ramazani, mobilise les gouverneurs des provinces, le médecin inspecteur et chef des divisions provinciaux à s'approprier et assurer le suivi du projet multisectoriel de nutrition et santé, PMNS, pour des résultats satisfaisants. Cette recommandation a été faite hier mardi lors de la revue à mi-parcours de ces programmes. Il était question d'évaluer les progrès accomplis durant 3 années, 2021-2022. On écoute donc Yuma Ramazani au micro de Jean-Marc Matwaki.
Voilà, nous avons été très clairs avec toutes les parties prenantes ici. D'abord, la première des choses, c'est que nous avons dit effectivement que le choix de ces prestataires de terrain, c'était en fonction de leur expertise. Donc, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas venir se plaindre ici en disant « Ah voilà, on a constaté qu'il y a eu ceci ou cela ». Donc, si on les a recrutés, c'est pour qu'ils délivrent les résultats. Alors, nous étions aussi très regardants par rapport à ce qui se passe sur le terrain, en leur disant que s'il y a des questions de gouvernance en rapport avec la fraude la soustraction des intrants nutritionnels, la soustraction des médicaments sur les terrains, nous serons vraiment sans pitié. Nous serons même amenés d'arrêter le projet dans cette province. Voilà pourquoi nous insistons qu'il y ait de l'appropriation, qu'il y ait de l'implication des gouverneurs, des médecins inspecteurs provinciaux et même le chef des divisions provinciales, de sorte que ce projet soit mené vraiment à bon port avec des résultats qui soient des résultats attendus.
Fruits du crédit et dons de l'Association internationale de développement, IDA, obtenus par le gouvernement de la RDC, les projets multisectoriels de nutrition et de santé PMNS est mis en œuvre dans plusieurs provinces de la RDC, à savoir les Sud Kivu, les Kasaï centrales, Kasaï orientales, les Kwilu, les Tanganyika, la Mongala, les Nord Kivu, les Kwango, la Chuapa, les Maïndombe et Olomami, ainsi que les Sud Ubangi.
Actualité internationale.
Les projections économiques concernant l'Afrique subsaharienne revues à la baisse. Après 3 années de reprise, la croissance de l'économie à l'échelle du globe devrait se stabiliser à un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie. Un constat global qui cache des situations contrastées selon les zones géographiques. Les projections concernant l'Afrique subsaharienne ont par exemple été revues à la baisse ces derniers mois.
L'invité.
Notre invité, c'est Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Il revient sur les programmes d'action du gouvernement souminois présentés ce mardi à l'Assemblée nationale. Pour lui, la première ministre Judith Souminois semble avoir la volonté en présentant une feuille de route assez large. Mais le plus grand problème, c'est comment mobiliser les moyens pour matérialiser son programme. Christian Moleka s'entretient avec Grace Hamzati.
Christian Moleka, bonjour.
Bonjour.
Quelle lecture faites-vous de la présentation du programme d'action du gouvernement souminois qui intervient 2 mois après la nomination de la première ministre, mais aussi après de longues tractations?
Après la longue nuit, le jour apparaît. Et donc, on constate qu'aujourd'hui, le premier ministre est venu avec toute son équipe présenter son programme du gouvernement. On constate également qu'on a, perdu beaucoup plus de temps en tractation politique et qu'il a fallu même quelques conciliabules jusqu'aux dernières heures pour avoir un minimum de consensus nécessaire au vote d'aujourd'hui. Et donc, elle est là, elle présente son projet assez ambitieux avec beaucoup de détails, un discours fleuve et à la hauteur probablement des problèmes qui l'attendent. On verra dans le concret comment ce gouvernement réussira à mobiliser 92 milliards en 5 ans et en moyenne 18 milliards l'année.
Dans son discours, dans la présentation de son programme, la première ministre reconnaît au moins les défis majeurs qui attendent son équipe. Mais vous pensez que ce programme axé sur 6 piliers est réaliste avec cette idée de mobiliser 18 milliards de dollars par an?
Le grand défi, c'est le financement. Elle paraît volontariste, elle présente une feuille de route assez large. Le grand défi, c'est comment on finance, comment on trouve le financement pour tous les projets qui ont déjà commencé, donc 145 territoires, santé universelle à étendre, l'enseignement, la qualité de l'enseignement, ensuite tous les nouveaux projets qu'elle apporte, et ensuite comment on alloue avec efficacité les fonds. On a vu dans les passés que beaucoup de projets qui ont été lancés n'ont pas abouti parce que soit on a eu des scandales de détournement, de corruption, ainsi de suite, de coulage de recettes. Comment elle fait pour allouer efficacement les ressources? Ce sont les grands défis qu'elle va rencontrer. Nous espérons qu'elle, avec son équipe, elle travaillera à mieux rationaliser les dépenses, à mieux financer des projets à impact réel, parce qu'il y a énormément des contraintes structurelles qu'elle va rencontrer, un déficit budgétaire, un endettement qui est en train de monter.
Alors, ce gouvernement arrive au moment où le pays est menacé par la guerre, notamment dans sa partie est. Pensez-vous que c'est un défi qui sera vite relevé au regard du programme de ce gouvernement? Parce que Madame le Premier ministre a affirmé l'engagement de son gouvernement à financer les forces armées de la RDC, à renforcer leur efficacité en recrutant des jeunes et en dégageant les inactifs. Qu'en pensez-vous?
La guerre à l'Est, c'est une guerre longue, avec une économie de guerre structurée, avec des implications régionales et internationales, avec un volet diplomatique important et même un volet économique important. C'est une question complexe qui ne saura pas se résumer et se régler de manière assez rapide. Il faut s'inscrire dans la durée. Je crois qu'elle a probablement conscience lorsqu'elle parle d'un projet de pratiquement 10 ans pour reconstruire l'armée et qu'elle s'inscrit dans une dynamique de budget programme ou même de budget quinquennal. C'est un défi, c'est vrai, un défi énorme qui semble être la priorité de son action gouvernementale. On verra maintenant comment, dans l'allocation des ressources et dans la mobilisation diplomatique et à la fois politique, comment elle réussira à réguler cette insécurité qui s'inscrit dans la durée depuis pratiquement 30 ans.
Et que faire pour mobiliser réellement ces budgets?
Bah, il faut déjà beaucoup de rigueur à l'intérieur, hein, beaucoup de rigueur pour arrêter toute forme de détournement, de coulage des recettes. Il faudrait augmenter la pression fiscale, élargir l'assiette fiscale, mettre en place beaucoup de réformes nécessaires, digitaliser là où il faudra. Mais surtout, il faudra éduquer les Congolais à participer par le civisme fiscal. Nous avons une population qui participe moins à la mobilisation financière. Et ça demande de parler, de construire la confiance pour pousser les Congolais à mettre leur main dans la pâte à travers leur contribution financière. Après, il faudra aller vers l'international pour faire des emprunts. Et ça demande de mieux circonscrire également les conditions d'emprunt pour que nous ne nous retrouvions pas avec un endettement qui nous revienne pratiquement au niveau que nous avions en 2010.
Quelles sont vos recommandations à ces nouveaux gouvernements pour que les aspirations ou les attentes du peuple congolais soient réalisées? C'est par exemple la paix, la création d'emplois, comme elle-même l'a dit, l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, mais aussi la stabilité du taux d'échange.
Le gouvernement doit s'appliquer à remettre sur pied notre appareil productif et donc à réindustrialiser. C'est vrai qu'on a un plan directeur qui a été adopté, il faut trouver les financements pour plus de 50 milliards de dollars. Le gouvernement doit travailler à relancer notre appareil productif, à diversifier l'économie en mettant 10% comme ils ont promis dans l'agriculture et ensuite à travailler structurellement pour ne pas avoir une économie qui dépend de l'extraversion, savoir importer tout et donc à produire ici localement. Ce sont des choses qui vont prendre du temps parce qu'ils vont demander des réformes structurelles qui vont s'inscrire en moyen long terme. Il faudra donc communiquer longuement pour que l'opinion reste en contact avec le gouvernement. Beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, rester en contact permanent avec la société civile, la population pour expliquer pédagogiquement les réformes à mettre en place qui vont prendre du temps au-delà de toutes les bonnes fois.
Christian Moleka, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette session d'information sur Radio Okapi. Debs Vita a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Alain Irong Mouchinge. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi à la présentation. Merci à vous tous de l'avoir suivi.